L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre parmi nous dans cette
émission. Merci pour ta disponibilité, ce temps de sacrifice. Que Amen. Le Seigneur te bénisse, te le rende au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Nous avons besoin de ta parole, car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Laisse que ta parole prenne toujours la première place, qu'elle soit toujours au commencement de tout ce que nous ferons dans nos vies.
Tout à fait.
Bénis ces instants, glorifie le nom de ton Fils. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Nous sommes toujours en train de faire cette petite étude sur la parabole du Samaritain. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur par rapport à cette parabole aujourd'hui?
Cette parabole que nous avons vraiment exploitée, que nous continuerons toujours à exploiter, même si on finissait, on va regretter pour dire « Il fallait dire ceci, cela. » Bon, c'est bon. Mais l'important, c'est que dans tout ce que nous disons, que les auditeurs prennent en compte ces paroles, parce que nous ne sommes que des instruments. Dieu nous utilise pour sauver. Pour sauver, parce que vraiment cette parabole nous montre qu'il faut rester à Jérusalem. Il ne faut pas descendre à Jéricho parce que ce n'est pas une bonne solution. C'est-à-dire, il ne faut pas quitter l'état où nous aimons Dieu, où nous sommes dans la présence de Dieu, pour aller dans une ville où Dieu est loin de nous, pour choisir ce qui ne plaît pas à Dieu. La Bible nous dit même, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans ce monde. Car celui qui aime le monde, eh bien, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça, c'est important. Nous devons aimer Dieu. Il n'est pas aimer le monde. Celui qui aime le monde, en fait, il s'éloigne de Dieu. Il choisit le mal. Et voilà ce qui est arrivé à cet homme, parlant de cette parabole. Il était à Jérusalem. Il a quitté Jérusalem. Et en descendant, les brigands se sont emparé de lui, l'ont dépouillé, l'ont chargé de coups, l'ont laissé à demi-mort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à demi-mort. C'est-à-dire, on peut les voir chrétiens, mais pour Dieu, ce sont déjà des morts. Et Jésus veut qu'on revienne à lui, qu'on revienne à lui. Et pour ceux qui nous suivent et qui se retrouvent aujourd'hui dans cette situation, ils sont à demi-mort, eh bien, qu'ils sachent que seul Jésus peut les sauver. C'est lui, vraiment, le bon samaritain. C'est lui qui a accepté de porter le mal, de porter le péché pour nous sauver. C'est lui le seul. On relit ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21.
2 Corinthiens 5,
21. La Bible dit ceci. Je lis la parole. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ était sans péché. Il était pur. Il n'avait pas connu de fraude. Mais Dieu a fait qu'il devienne péché. C'est-à-dire, en mourant à la croix, il a porté le péché de tous. En fait, il a accompli le verset de Genèse chapitre 3, 15. On peut lire ça pour donner une idée dans ce qu'on voudrait dire. En fait, dans Genèse 3, 15, quand Adam et Ève ont péché, Dieu est venu.
Tout à fait.
Il a dit des mots pour l'homme, il a dit des mots pour la femme. Et au verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire toi le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Parce que le serpent a sa postérité, la femme aussi a sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire la postérité de la femme va t'écraser, toi le serpent, et tu lui blesseras le talon. En fait, quand on parlait de cette postérité, Dieu ne voyait que Jésus-Christ. Parce que, en fait, beaucoup peuvent développer des théories, mais Ève ici représentait et donnait, était l'ombre de l'Église, l'ombre d'Israël. Parce que Christ, à la croix de Golgotha, a écrasé la tête du serpent. Et en écrasant la tête du serpent, il a été mordu au talon. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Un serpent, quand il vous mord, en fait, il injecte en vous son venin. Jésus-Christ, en mourant, a porté le venin du serpent. C'est-à-dire, il a porté le péché. Quand il était à la croix, il avait sur lui le péché de tous les hommes.
De tous les hommes, du monde entier.
Or, le venin du serpent, c'est le péché. Lorsque nous suivons le serpent, c'est-à-dire l'ennemi qui est le diable, eh bien, il inocule en nous son venin qui est le péché. Jésus a accepté de porter ce venin. Mais en portant ce venin, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé tout ce qui est à lui. Il a détruit toutes ces choses, tout ce qui est de ses œuvres. Il pouvait donc dire avec assurance, tout est accompli. Voilà, il a tout accompli à la croix. Je peux lire Colossiens chapitre 2 pour asseoir un peu cette pensée. On doit s'appuyer sur la parole pour être sûr et rassurer ceux qui nous suivent que ce que nous disons est biblique. Colossiens chapitre 2 verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a, regardez bien, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire la croix était le point le plus culminant où Jésus-Christ a remporté la victoire. Donc Jésus-Christ a accepté de devenir samaritain pour remporter une victoire. Et cette victoire l'a porté à devenir en fait le sauveur de tous les pécheurs. Parce que moi j'étais aussi un pécheur, hein. Il n'y a personne qui est né chrétien.
Tous les
nous
hommes
naissons
sont pécheurs.
Mais en rencontrant le chemin, la vérité et la vie, nous devenons des chrétiens. Il est le chemin qui mène au ciel. Pourquoi? Parce qu'il accepte de devenir, en fait, péché. Le bon samaritain. On a dit, on peut le redire, mais cette fois-ci, on va le lire dans 2 Rois chapitre 17, où on parle des samaritains, ce peuple qui n'était pas le peuple de Dieu, mais qui était un peuple qui s'est retrouvé dans le territoire des peuples israélites. 2 Rois chapitre 17, on lit seulement d'abord le verset 6. La Bible dit ceci. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Samarie.
En Assyrie.
En Assyrie, excusez-moi. Il les fit habiter à Kalash et sur le Kabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Med. Eh bien, on passe, on prend le verset 24. Le verset 24 dit ceci. Bon, ici d'abord, pour donner une explication, Israël a péché, le dernier roi s'est osé, et Dieu permet, pour ceux qui descendent Jérusalem ou Jéricho, il permet aux ennemis de pouvoir s'emparer d'eux. Eh bien, les ennemis, ils prennent tous les Israélites, parce qu'il n'y a plus personne. On arrive au verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, voilà, de Kuta, d'Ava, d'Ama et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Ils prirent possession de Samarie et ils y habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Pour ceux qui connaissent la suite, ils ont continué à désobéir. Et plus tard, on va dire au roi, tu vois, tout ce qui arrive à ce peuple-là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de ce territoire-là. Le Dieu de ce territoire-là des principes. Il va leur envoyer un sacrificateur qui va commencer à leur enseigner comment ils devaient marcher. Mais malgré cela, ils faisaient le méli-mélo.
Le mélange.
Voilà. Ils associaient et Dieu et ce qui était de leurs coutumes anciennes. C'est de ce peuple qu'est sortie la femme célèbre qu'on connaît, la femme samaritaine. Donc elle est descendante de ce peuple. Donc à l'origine, ce peuple n'était pas les descendants d'Abraham. En fait, c'était des gens des autres nations. C'était des impurs, voilà si on peut dire, des impurs par rapport à la loi de Dieu, par rapport au principe de Dieu. Parce que pour Dieu, celui qui est pur, c'est celui qui marche selon sa parole. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas pur.
Tu es impur.
Tu es impur. Mais Jésus-Christ, nous lui donnons également ce costume de Samaritain. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté de devenir impur pour nous rendre purs. C'est-à-dire, il a accepté d'être mordu par le serpent. Il a accepté le venin du serpent et il a fait des œuvres à la croix. Et il a crié à la croix, disant, « Père, tout est accompli. » Il a tout accompli. Ça, c'est très important. Il est, au fait, Jésus-Christ, il est, je peux dire, ce bouc, hein, dans le texte qui parle de la fête annuelle des expiations, qu'on appelle aussi les Yom Kippour. Il est ce bouc dont le sort était tombé pour Azazel. C'est-à-dire, il y avait deux boucs qu'on utilisait. Il n'y avait pas simplement deux boucs. On prenait un bœuf, on prenait un bélier, on prenait deux boucs. La fête annuelle des expiations, comme vous voyez bien le mot, quand tu vois le mot expiation, on fait allusion à expier le péché, à demander le pardon du péché auprès du Seigneur. C'était le pardon du peuple qu'on implorait en offrant ses sacrifices. Et pour le peuple, parce que pour Aaron, on devait sacrifier un bœuf, mais pour le peuple, on devait sacrifier un bouc. On devait tuer un bouc. Et l'autre bouc devait être relâché. Et ce bouc qui devait être relâché était destiné spirituellement à emmener loin le péché du peuple. Mais je vais lire, en fait, on peut aller dans Lévitique 16, verset 4, pour voir un peu que toutes ces cérémonies-là préfiguraient ce que Jésus-Christ devait être. Ce que Jésus-Christ devait réaliser, parce que c'est lui, le bon samaritain. C'est lui qui a pris nos péchés et qui l'a amené loin. Je prends le verset 4. Il se revêtira. Ici, on dit par exemple, avant de faire cette cérémonie, il fallait d'abord que Aaron se revêtisse d'un vêtement de lin. D'abord, avant, il devait se laver, ensuite s'habiller d'un habit de lin. Ça avait une signification. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Ça, c'est Aaron. Et portera sur son corps des caleçons de lin, toujours lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira de la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. D'abord, on demandait à Aaron de se laver dans l'eau et ensuite de se revêtir d'un vêtement de lin. En fait, ça voulait dire quoi? Je veux toujours parler du Samaritain en lisant ça. Ça voulait dire ceci. Je lis Hébreux chapitre 7, verset 26. Ça explique clairement cela. La Bible dit ceci au verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Ici, on parle de Jésus. Un souverain sacrificateur comme lui. Un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, est plus élevé que les cieux. En fait, Aaron préfigurait Jésus-Christ.
Tout à fait.
C'est-à-dire, Aaron préfigurait Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est le seul homme qui est saint. En fait, saint dans le sens où il est né sans péché.
Sans péché.
Nous aussi, on est saint. Mais si nous, on est saint, ce n'est pas par le fait qu'on est né sans péché. Mais c'est parce qu'on a cru au saint des saints qui est Jésus-Christ. Et il nous rend saint par le fait que nous devenons membres de son corps. Mais Jésus, c'est différent. Il est venu dans le monde saint, innocent.
Et il est parti sans péché.
Sans tâche. Séparé des pécheurs. est plus élevé que les cieux. Donc, en fait, quand on voyait Aaron s'habiller en vêtements de lin, tout ça, le lin, ce sont les œuvres justes de saints. Si on doit se référer dans le texte de l'Apocalypse 19, verset 7, la condition sine qua non pour entrer dans les fêtes des noces de l'agneau, pour assister à ces noces, il faudra être habillé de ce vêtement qu'on appelle le lin. Le fin lin éclatant. Et on dit le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Jésus-Christ est venu déjà saint. Il est venu déjà avec ses habits-là. Il est venu déjà parfait pour rendre parfaits les imparfaits.
Les imparfaits.
Dieu, il est merveilleux. Donc, c'est pour ça que nous disons, en voyant ce qui est arrivé à cet homme qui a quitté Jérusalem pour descendre Jéricho, nous disons qu'il était vraiment l'homme qui avait le profil, l'homme qui pouvait apporter cette guérison, cette solution, parce qu'il était, rempli de toutes ses qualités, saint, innocent, sans tâche. Aucun homme n'est sans tâche, aucun homme. Et que personne ne nous trompe, parce qu'il y a des gens qui trompent les autres, disant que c'est moi qui ôte les péchés de ta vie. Non, personne ne peut ôter les péchés d'un homme. Ainsi, les sacrificateurs, les lévites ne pouvaient pas sauver cet homme. La seule personne qui pouvait sauver cet homme de sa situation, parce que ses blessures, c'était l'image de quelqu'un qui était rempli de péché, c'était Jésus. Parce que tous nous sommes pécheurs, c'est-à-dire nous sommes descendants d'Adam. Romains chapitre 5, verset 12, on va lire des versets qui nous montrent que Jésus-Christ répond au profil. Romains 5, 12 dit par exemple ceci. On va lire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En fait, moi j'ai rien fait, c'est Adam qui a fait le mal, mais quand je viens au monde simplement, le premier jour, je suis aussi pécheur. Parce qu'un autre a péché. C'est la Bible qui dit ça.
Romains... J'ai ce virus de péché en moi.
Voilà. Romains 3, verset 23. La Bible dit ceci. Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vois? Personne ne peut se glorifier pour dire que lui, il est...
sans péché.
Non, il n'existe pas.
Issu d'un homme et d'une femme, nous sommes tous pécheurs.
Tous pécheurs. Le verset 9 au verset 12. On va lire la Bible. Vous qui avez votre Bible, ouvrez-la, on va un peu partout là. En verset 9, il est dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Ça, c'est Paul qui dit. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous en est égarés. Un peu comme ce qu'on a dit l'autre fois, Adam banni du jardin, il était égaré. Il allait ça et là. 1 Roi chapitre 8, verset 46. Ça confirme toujours qu'on ne méritait pas le poids face à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui avait réuni toutes ses qualités. 1 Roi chapitre 8, verset 46, si tu le trouves, tu pourras le lire avant moi.
Verset 46.
Oui.
Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un autre pays.
Tu peux te limiter juste au verset 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a... Tu peux relire cette phrase-là.
Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche.
Voilà. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Qui peut dire que lui n'a pas connu le péché? Il n'a jamais commis une désobéissance. Hein? Et la Bible le dit. Moi, je lis dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas, la vérité n'est point en nous. Tu vois, ça c'est nous humains. Mais Jésus-Christ n'a pas fait ces choses. Jésus-Christ était l'homme qui répondait au profil. Il fallait un homme parfait pour sauver les imparfaits. Un homme parfait. Et l'homme parfait, c'était Jésus. Regardez le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Et sa parole n'est point en nous. Proverbe 20, verset 9. Tu peux le trouver.
Proverbe 20.
Et vous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez prendre Job chapitre 15.
20, verset 27.
Verset 9.
20, verset 9. Qui dira « J'ai purifié mon cœur »? Qui? Je suis net de mon péché.
Personne. Personne ne pourra dire que lui, il est net du péché. En tout cas, lui, il n'a pas de péché. Aucun. Je lis Job 15, verset 14. On dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Regarde les insistantes. Hein? Laissons la Bible parler. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Job 14, verset 4. Tu peux le lire.
Job 14,
verset 4.
14, verset 4. J'y suis presque. Job 14, verset 4. Comment un être souillé sortirait-il un homme pur? Voilà. Il n'en peut en sortir aucun.
Voilà, très important. C'est-à-dire, toutes nos mamans par qui nous venons au monde, d'abord, eux-mêmes sont souillés, donc nous sommes sortis aussi des personnes souillées, nous sommes souillés. D'être porté par une femme qui était déjà souillée. C'est comme ça, parce que Marie était issue aussi du péché, hein, issue descendant d'Adam. Psaume chapitre 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. En fait, pourquoi on nage dans ces versets? C'est pour montrer que l'homme ne pouvait pas sauver l'homme. Il n'y a que Dieu qui pouvait sauver l'autre. Il n'y a que lui. Le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et même parlant, par exemple, des parents de Jésus, cela explique...
Les parents biologiques.
Parents biologiques, voilà. Merci pour avoir donné cette précision. Parce qu'en fait, le père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais Joseph et Marie, ils étaient des hommes. Ils avaient aussi un cœur tortueux. Un cœur...
Ils avaient besoin d'être changés.
Oui.
Ils avaient eux aussi besoin d'un sauveur.
Oui. Ils avaient aussi des doutes vis-à-vis du Seigneur, de beaucoup de choses. Ils n'étaient pas parfaits. Hein? Mais regardez, ce qui justifie, cela est justifié par ce texte que je vais lire dans Marc chapitre 3, pour dire que même eux, ils ne pouvaient pas sauver l'humanité. Non. Marc chapitre 3, versets 20 à 21. Ici, par exemple, Jésus-Christ était en train de prêcher, il prêche, alors il voulait manger. Alors, il sait reprendre son repas. Regardez l'attitude des parents de Jésus. Marc chapitre 3, verset 20. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Impossible de manger. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, c'est-à-dire, ayant appris que Jésus ne peut même pas manger parce qu'il y a des gens qui viennent, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de qui? De lui, de Jésus. Car il disait, il est hors de sens. Maintenant, pose-moi la question, mon frère. Il disait que qui est hors de sens?
Qui est hors de sens?
Oui, les parents disaient que Jésus
était hors sens.
Et qui sont ses parents qui l'ont supporté, je veux dire? Donc, Marie et Joseph. Ils ont dit, non, Jésus, vraiment, il est hors de sens. Comment ils pouvaient penser comme ça? Ils pouvaient penser comme ça comment? Parce que c'était des hommes. Ils avaient aussi un cœur tortueux. Ils avaient des limites. Ils étaient issus d'Adam. Voilà. Mais Jésus-Christ, on l'appelle le dernier Adam. Il est venu pour donner la vie à cet homme qui est rempli de péchés que nous étions, que ceux qui nous suivent étaient. Il est le dernier Adam pour nous donner la vie, pour qu'un jour nous ressuscitions comme lui est ressuscité. Il est venu nous communiquer la vie qu'aucun homme ne pouvait communiquer. Il est vraiment le bon samaritain. Et nous devons nous attacher à lui. Il est la seule personne qui pouvait nous sauver. Psaume 48, verset 8 à 9.
Le psaume...
48, verset 8 à 9. Aucun homme ne pouvait le faire. Seul lui pouvait nous sauver. Et c'est lui seul qui doit absorber notre foi.
48, verset...
Verset 8 à 9.
Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Pause. Je ne sais pas si c'est ce verset.
Non, je crois que ce n'est pas ça. C'est Ecclésiaste 7, 28. Je me suis trompé.
Ecclésiaste
7, 28. Je lis le texte. La Bible dit ceci. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. C'est Salomon qui a dit ça. Il dit qu'il n'a trouvé qu'un seul homme entre mille. En fait, cet homme-là, sur un plan prophétique, c'est seulement Jésus. Tous nous étions imparfaits. La seule personne entre mille qui pouvait sauver les hommes, c'était Jésus. Mais parmi les femmes, toutes les femmes, aucune n'a été trouvée. Et pour ça, je peux terminer par ce texte qui est connu de Apocalypse 5, 1 à 4. Jean a pleuré quand il a cherché celui qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il a pleuré parce qu'on dit il ne s'est trouvé ni dans le ciel, ni sur la terre, quelqu'un qui pouvait ouvrir le livre. Et l'un des vieillards lui dit ne pleure pas, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetants de la vie, Jésus-Christ avait vaincu. Pourquoi il a vaincu? Parce qu'il est vraiment le bon samaritain. Il est la personne qui répond au profil.
Aux critères
pour nous sauver du mal.
Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le sauveur par excellence. Aucune religion ne sauve, aucune église ne sauve, aucun pasteur ne sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Dans Jean 3, verset 16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est-à-dire Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à Jésus, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera du repos. » Dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, je dînerai avec lui. » C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire aujourd'hui, au travers de cette émission dans votre vie. Ouvrez-lui les portes de votre cœur, car il est le seul qui puisse prendre votre péché sur lui. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu au travers de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sauveur. Vous pouvez venir vers moi, je ne pourrai pas vous sauver. Vous pouvez venir vers Jonathan, il ne pourra pas vous sauver. Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et il se tient aujourd'hui, il dit, est-ce que vous êtes prêt à lui ouvrir les portes de votre cœur? Simplement la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. Je viens à toi et je te demande pardon. Pardon pour mon péché, pardon pour ma rébellion, pardon pour mon impureté. J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Je prends l'engagement aujourd'hui de représenter Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir. Que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide et qu'il vous soutienne à rester à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au +243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.